France de Navi.
Bonjour à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission de cuisine qui parle de ce qu'il y a dans la marmite et des palabres qui se tiennent autour de cette marmite, de ceux, de celles qui nourrissent notre âme, notre cœur et notre imagination. Les sens en éveil, la curiosité en bandoulière et le goût pour boussole. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Maurice Sacco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune cuisinier, passé par les cuisines de Grand Palace, n'est-ce pas ? Et à la télé. Vous l'avez peut-être découvert, d'ailleurs vous qui nous écoutez sur les chaînes de télévision en France et ailleurs à l'étranger, au début de l'année 2020 dans l'émission de télé-réalité Top Chef. Il est grand, il est très très grand même, Maurice.
Un peu trop des fois pour la cuisine.
Voilà, c'est ça, il va falloir se contorsionner un peu. Et en plus, en même temps, quand on vous regarde, on a l'impression, je l'ai écrit, hein. Donc vous êtes comme élastique parce que vous avez l'air très très souple dans vos mouvements. Vous avez un grand sourire caché derrière un masque aujourd'hui, mais on sait qu'il est là. Vous êtes curieux, ambitieux, évidemment, entreprenant, puisque vous avez ouvert votre premier restaurant. C'était début septembre à Paris. Les vitrines de ce restaurant, je suis passée à côté, dans le 14e arrondissement, sont couvertes de fleurs de mariée.
C'est ça.
Alors c'est des jolies fleurs, on dirait des éventails, ouais. Ou comme des feuilles de ginkgo biloba.
C'était vraiment le motif dont on est parti, donc la fleur du marié. Et on a fait faire par un artiste qui a tout dessiné à la main levée. Donc ça lui a pris 3 jours à dessiner tout ça. Mmh. Et moi j'aimais bien tout ce qu'on a derrière la fleur du marié. Donc on dit que quiconque la porte à son mariage aura droit à bonheur et prospérité. Et c'est la moindre des choses qu'on espère quand on ouvre son tout premier restaurant.
Tout premier restaurant. En tout cas, c'est un très beau symbole pour ce restaurant qui a un nom aussi très symbolique puisqu'il s'appelle Mosuke, qui est la contraction de deux noms. Alors, je parle pour vous. On a Moré et on a...
Et donc, on a le Mori et le Suke qui est tiré de Yasuke. Donc, l'histoire d'un esclave africain qui, dans son parcours, a été déporté jusqu'à se retrouver au Japon. Et de fait, il a monté toute l'échelle sociale et s'est retrouvé comme samouraï. Donc, dans l'histoire du Japon, il est connu comme le premier samouraï étranger et le seul samouraï noir qui existait à ce jour-là au Japon.
Vous l'avez découvert comment, Yasuke ?
Alors, cette histoire, j'ai découvert totalement par hasard, vraiment en scrollant sur Internet. Et je suis tombé sur l'histoire du coup de cet esclave devenu samouraï. Donc, moi, passionné du Japon que je suis, je connais pas cette histoire. Et je l'ai découverte comme ça. Et ensuite, quand j'ai eu ce petit teaser, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai acheté le livre de Serge Billet sur l'histoire de Yasuke. Et là, donc, j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu.
Très inspirant, en tout cas.
Vraiment hyper inspirant. Et puis, j'étais en pleine réflexion pour mon restaurant et j'avais vraiment envie de faire cette cuisine entre l'Afrique et le Japon. Et je me suis dit, c'est juste évident, quoi.
Alors, on va parler, évidemment, du Japon. Mais je voudrais qu'on commence par l'Afrique. Hein, l'Afrique, la première.
Bien sûr.
Honneur à l'Afrique. L'Afrique que vous portez dans votre sang, dans vos racines et votre héritage. Je voudrais justement savoir un petit peu si vous pouviez me décrire quels étaient les sons, les goûts, les saveurs, les parfums qui ont bercé votre enfance.
Tout ce qui a bercé mon enfance, vraiment, c'est déjà par les sons. Donc les sons, c'est que moi, à la maison, avec mes parents encore au jour d'aujourd'hui, je parle pas français avec mes parents, donc c'est vraiment du soninké de par mon père et ma mère qui est bambara aussi et qui parle aussi le peul, mais le peul je le comprends absolument pas. Donc déjà c'est vraiment la langue maternelle, donc j'ai été versé par le soninké, le bambara et pareil pour des musiques, par du Salif Keita, par du Youssouf N'Dour, ma mère qui était vraiment très curieuse de ces grands artistes et qui écoutait énormément ça à la maison, ou des griots aussi que mon père écoutait énormément, donc pour les sons on était vraiment...
Bercé justement dans cette ambiance très riche d'échanges et de contes aussi, parce que les griots, c'est les contes, les histoires, l'apprentissage.
C'est ça, et j'ai toujours été moi fasciné par leur connaissance en fait qu'ils avaient, c'est que il suffit de leur sortir un prénom et un nom, ils arrivent à remonter tout l'arbre généalogique jusqu'au premier ancêtre quoi. Et c'est totalement fou, et je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à avoir cette mémoire et réussir à dérouler ce récit en si peu de temps quoi.
L'immense respect. Et alors elle avait quelle saveur cette enfance ?
Alors cette enfance, sur les saveurs, on était sur des choses qui était sur une cuisine d'Afrique de l'Ouest, mais ma mère a eu la chance de voyager sur toute la côte, donc elle est un peu une enfant de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'elle est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de parents maliens, et elle a grandi entre donc le Mali, le Sénégal et la Guinée, quoi. Elle a appris toutes ses cuisines durant ses multiples passages avec son père, et donc à la maison, je mangeais aussi bien la tchéké poisson ivoirien, que le tchéboudjène sénégalais, que le mafé, que moi je dis malien, mais les Sénégalais diront que ça leur appartient aussi.
Ah bah ça, on ne tranchera pas
ce débat. Mais c'est le gros débat, je ne vais pas lancer le débat.
On est d'accord.
Mais c'était vraiment les goûts d'Afrique de l'Ouest typiques, mais dans sa globalité. Quoi.
Vous avez dit peul, ça veut dire qu'on mangeait du lait ?
Ouais, peul, ouais, on avait, moi c'était par exemple le sombi qu'on trouve plus dans les régions soninké, qui est le riz qu'on surcuit, qu'on additionne avec beaucoup de lait fermenté et autres. le tiakri aussi sénégalais qu'on appelle le dégué, au Mali, donc aussi, donc oui, énormément, et une très grosse culture du lait, et puis pour les mariages aussi, énormément, bah, tout le cérémonial autour du lait.
Je crois que vous avez servi un plat un peu madeleine dans votre restaurant, justement.
Totalement.
C'était une allusion à ce dégué ?
Ouais, c'est vraiment, bah, moi, c'est mon hommage à ce dégué que je consommais et que je consomme encore. Ma mère savait que c'était pas forcément toujours le dessert que je préférais, mais je l'ai énormément mangé. C'était une fois que j'ouvrais le restaurant, j'avais envie d'avoir ce dessert. En tout cas, nous on le sert en pré-dessert au restaurant.
Oui, c'est ça, un pré-dessert. Alors ouais, ça, c'est un concept. Il faudra nous l'expliquer le pré-dessert.
Parce que je trouvais que c'était, il y a une fraîcheur qui se dégage et on n'est ni en fait au final sur ce qu'on entend par dessert en France avec une injonction de sucre et quelque chose de très, de vraiment avec un biscuit ou autre. Mm-hmm. Mais on n'est pas non plus sur un plat salé. Donc, l'appellation de pré-dessert qui existe déjà dans la gastronomie se portait parfaitement à ce dégât.
C'est comme une parenthèse avant le dessert et le rideau final sur son repas.
C'est ça, c'est une transition lente vers le sucré où on arrive sur quelque chose qui est ni trop sucré, ni dans le sel, et il trouve parfaitement sa place dans ce repas, et c'est une course que le client apprécie énormément.
En plus, vous avez conservé le côté fermenté du lait, donc vous avez vraiment gardé ces saveurs qui sont vraiment identitaires de ce pré-dessert, ou en tout cas de ce petit déjeuner, de ce dîner, de ce délice d'enfant.
ouais, vraiment, moi, pour moi, c'était vraiment un des marqueurs principaux d'un point de vue du goût sur le dégât, c'était d'abord le mil, parce qu'il est très présent, et ensuite le lait fermenté. Donc je me suis dit, c'était vraiment une force de ce plat-là, et qu'on pouvait pas la gommer pour essayer de plaire. Donc je me suis dit, bon, je vais le proposer tel qu'il est. Donc le lait fermenté était vraiment un élément central dans cette recette.
Avec son acidité, justement.
Avec son acidité, ce côté un peu âcre qu'on peut retrouver, et je trouve que c'est juste excellent, quoi. Mais bon, ça, c'est mon avis, après.
C'est très breton aussi, parce que c'est l'air ribot de Bretagne.
Bah ouais.
Et du coup, quelle a été la réaction de vos premiers clients devant ce dégué?
On a eu la chance aussi d'avoir des bretons, parce que du coup, pour ce dégué, j'utilise le lait ribot. Et eux, ils trouvaient ça formidable d'avoir, ce lait ribot qui soit utilisé et qui ça soit un goût totalement différent. Et puis, la réaction des clients, c'est que, ils trouvaient ça super bon, comme moi. Donc, content. Et ensuite, qu'ils étaient assez étonnés de pas avoir eu connaissance du dégué. Avant d'être venu manger chez nous, car c'est quelque chose qui est très sain, qui est très bon et qui pourrait consommer quotidiennement. Quoi.
C'est une ouverture. Est-ce qu'il y avait des cousins, des tantes Non, mais dans la famille, ça brasse, des copains qu'on invite, chez qui vous allez
On va dire, c'est un peu l'adage. Hein. Chez nous, c'est vraiment ces brassages qui se passent quotidiennement avec les tantes qui passent, les oncles, encore plus ce week-end, on a vraiment la famille, c'est tous les week-ends, en fait, il y a une réunion familiale, quoi, quelque part, c'est souvent à la maison, ça peut être ailleurs, mais il y avait toujours ce brassage et je sentais que ce lien social, en fait, c'était vraiment ce dont mes parents avaient besoin, et puis moi, j'ai grandi comme ça, avec, du coup, comme mes tantes, mes oncles arrivaient, il y avait les cousins qui passaient, et puis c'était des nouveaux copains de jeu, encore une fois, et puis c'était perpétuel, et toutes les semaines, j'avais des cousins à la maison, j'avais des amis, il y avait un brassage qui se faisait, et puis c'est comme ça que j'ai grandi, et puis moi, je le conçois pas, entre guillemets, une vie sociale sans ce brassage familial, quoi.
Et du coup, ça participe de votre recherche des goûts de l'Afrique?
Moi, ouais, c'est quelque chose que maintenant je retrouve dans ma cuisine, parce qu'au final, tous ces amis que j'ai pu me faire le long de ma scolarité, le long de ma vie, en fait, qui étaient aussi d'Afrique centrale, donc du Congo, Brazzaville et autres, c'est souvent que j'allais chez leurs parents, que leurs parents me gardaient, puis quand je mangeais à table, je mangeais ce qu'eux mangeaient, quoi. Donc, c'était mes premiers contacts avec des choses comme la chikungunya et autres, et vraiment, c'est ce qu'on mange pas du tout en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça m'a permis aussi de découvrir tous ces aliments. Et c'est des éléments aussi que maintenant on peut retrouver au restaurant. Et des goûts aussi, eux ont un fumé qui est beaucoup plus prononcé dans leur cuisine que sur l'Afrique de l'Ouest.
L'Afrique énormément centrale, de sauce, vous voulez dire?
Ouais, en Afrique centrale. Mm-hmm. Donc le fumé est beaucoup plus présent et puis il y a énormément de sauces à base de feuilles. Tout ça, c'est des choses que moi j'ai appris à découvrir en allant manger chez mes amis. Maintenant, j'utilise cette cuisine au restaurant, et c'est cette mémoire dans laquelle je veux épuiser aussi pour aller chercher des goûts qui sont typiques de cette région.
Vous avez des sauces feuilles en plus qui sont assez extraordinaires, parce qu'on va avoir de la sauce feuille, par exemple, de feuilles de baobab, où on va avoir des textures incroyables, gluantes, comme celle du gombo.
Là, cette démarche de découverte a été inconsciente au final, parce que moi, tout ça, je l'ai fait vraiment très jeune. Donc, en fait, au début, c'est juste de manger. Et c'est maintenant que j'y reviens en me disant, ça, c'était juste génial. Avec ce pondou, la sauce gombo qu'il y avait au milieu et qu'on prenait avec les mains, qui avait cette texture qui était visqueuse. En fait, cette texture, si je peux, entre guillemets, la contrôler, parce qu'elle n'est pas forcément agréable pour tout le monde, et d'en faire une sauce, ça pourrait être génial. Et c'est vraiment, je vais puiser dans ces souvenirs-là pour essayer de les les amener là où je veux à l'heure actuelle, quoi.
En termes d'aromates aussi, d'épices, comment est-ce que du coup vous travaillez ces produits? Comment vous allez à la rencontre de ces produits?
Bah, moi, pour aller à la rencontre de ces produits, bah, forcément, c'est des produits qui sont importés. Parce que y a certains parfums, certains effluves, certaines épices que j'ai pu goûter jeune là-bas. Donc moi, c'est plus ce qui m'a marqué, on va dire, dans mes passages quand j'étais petit. On faisait les marchés avec ma grande sœur et autres, et j'étais vraiment à hauteur des étals du marché. Donc j'avais joué ces choses-là, mais à la hauteur d'un enfant, quoi. Donc j'avais tous les parfums, tout me revenait comme ça. Et en fait, c'est des goûts que j'ai gardés en mémoire. Et maintenant, bah, je recherche des choses qui sont plus proches de ces goûts-là. Donc, quand j'importe des graines du paradis ou des graines de la paix, bah, je les goûte.
Des graines de la paix?
Ouais, les graines de la paix au Cameroun, au Congo aussi, on se les offre. Et personne se dit que c'est des choses qui se mangent, en fait, ils se les offrent. Et en fait, quand on les pile, c'est un goût, c'est un parfum qui est très particulier. Et c'est des choses que moi, je vais rechercher un peu dans ma mémoire, et je me dis, est-ce que ça se rapproche de ce que je connais et autres? Et après, bon, bah, il y a toute une batterie de tests qui s'exécute par la suite, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez un ingrédient, vous testez, retestez, dans la quête de ce premier goût, de ce premier souvenir, alors?
C'est ça, c'est que moi, je vais chercher vraiment ce premier souvenir. Et une fois que j'arrive à, ne serait-ce que m'en approcher ou à le palper, je me dis, top, c'est ce que je veux. Et ensuite, là, s'en suit, bah, je vais me dire, bon, bah, maintenant que j'ai ce goût, j'essaie de l'infuser dans une huile, j'essaie de l'infuser dans du lait, j'essaie d'en faire une poudre, je vais le mettre dans un gâteau. Et cette huile que j'ai infusée, elle est bonne, mais qu'est-ce que je vais en faire? Tiens, je vais essayer de faire une mayonnaise avec cette huile. Et c'est vraiment comme ça que je développe derrière des recettes, quoi.
D'accord, il y a des procédés de cuisson aussi, j'imagine, ouais. Parce que évidemment, bah, la façon dont on cuit.
Un procédé de cuisson que je veux goûter, que je n'ai jamais goûté, et qui me fait le plus saliver, c'est vraiment ce mode de cuisson touareg où on cuit dans le sable. Donc j'avais vu ça, je l'ai vu à la télé. Par hasard, un jour, sur un reportage sur le mont Touareg, donc en Mauritanie, en serpent par hasard, j'ai vu creuser un trou dans le sable, descendre et mettre un gigot d'agneau, recouvrir. Et il disait qu'il partait comme ça et qu'il revenait le lendemain et qu'il sortait. Et on voyait vraiment cet agneau qui s'effilochait. Je me dis, mais c'est totalement fou comme mode de cuisson. Et c'est hyper malin parce qu'au final, l'agneau va relâcher un peu de jus qui va humidifier le sel. Avec la chaleur, ça va faire une coque. Et en fait, c'est une cuisson à l'étouffée, quoi. Mais vraiment très pure parce qu'on n'a que le produit. Et c'est une cuisson que j'aimerais bien essayer au restaurant plus tard. Mais bon, déjà, je me suis renseigné où trouver du sable. Il faut du sable à bac à sable qui est propre.
À Rome, on fait ce que font les Romains, généralement.
C'est ça.
Enfin, en fait, c'est un peu compliqué. En même temps, il y a du pain aussi qui est cuit dans le sable en Mauritanie, enfin dans le désert. C'est vraiment la cuisine du désert. Et saviez-vous qu'il y a aussi, en Mauritanie, un sel au goût très particulier qui a laissé en tout cas à la chef Antokokagne un goût de miracle sur les lèvres. Elle en parlait dans Le Goût du Monde avec Youssouf Sorna, qui est un chef mauritanien du restaurant La Bifurcation à Paris.
J'ai goûté un tagine et je demande qu'est-ce que vous avez mis comme épice. Ils me disent rien. Je dis non, mais c'est pas possible. Je sentais des choses. Et donc, la deuxième fois qu'il a cuisiné, j'ai dit je veux voir comment vous cuisinez. Et effectivement, il n'y avait rien en dehors de leur sel, qui est une roche, qui donne vraiment un goût particulier. Et on a l'impression qu'il y a des épices.
C'est chez Mauritanie, on appelle ça melhoul youd. C'est vraiment une sel un peu spéciale qu'on les casse avec des morceaux. Il y a 2, 3, 4 sels différents. Et ben, moi, j'adore les sels mauritaniens. Quand je vais au Mauritanie, de temps en temps, je les ramène pour cuisiner avec. On n'a pas besoin de grand-chose à rajouter pour que ça soit bon.
Donc ce sel, incroyable, non?
Moi, je le connais pas, mais après, je passe un appel. Celui qui veut m'en envoyer au restaurant que je goûte, je suis preneur parce qu'il
ça semblait
a l'air assez formidable. Quoi.
Comme épicé, comme s'il apportait des épices à l'intérieur de ce sel, ce qui semble.
Là, ça semble assez fou, quoi. Et puis là, du coup, forcément, moi, il y a mon côté un peu savant fou qui vient.
Allez-y,
je pense que ça peut être hyper intéressant d'analyser d'un point de vue moléculaire ce sel et pourquoi ce sel aurait un goût d'épice et pourquoi ce sel est différent des autres sels. Et après, c'est mon esprit qui s'anime derrière, mais tout de suite, ça me donne envie d'en savoir plus d'un point de vue scientifique sur ce sel, déjà de le goûter d'un point de vue gustatif.
C'est un sel gemme, donc il a forcément en lui les
propriétés minérales qui lui sont propres.
Absolument.
Et je pense qu'il doit avoir... d'un point de vue scientifique, des choses assez folles qui se développent. Mais bon, ça c'est l'école Marx, hein, je dirais. Mais...
Oui, Thierry Marx, le grand chef cuisinier. Vous avez travaillé à ses côtés au mandarin.
C'est ça.
Je voudrais revenir sur cette cuisson dans le sable, en fait. Le sable est un conducteur de chaleur, c'est ce
ça.
Qui permet de...
Ça, bah, le sable, en fait, est un super conducteur de chaleur parce qu'en fait, les grains, les grains ne sont pas collés les uns aux autres. Il y a toujours de l'air entre les grains, donc chaque grain chauffe individuellement et chauffe parfaitement l'autre grain. Et en fait, le fait de cuire dans le sable directement... Donc là, forcément, quand on cuit une viande, il y a du sang, il y a du liquide qui ressort. Ce liquide va humidifier le sel, qui va avec la chaleur, du coup, un sable humide va former une coque. En fait, c'est l'équivalent d'une cuisson en croûte qu'on peut trouver classiquement dans toutes les cuisines du monde. Mais avec le sable qui, lui, est un parfait conducteur de chaleur, au final, ça va être une cuisson qui est très uniforme et une cuisson qui n'agresse pas le produit car elle est diffusée entre tous les grains de sable, donc qui ne surchauffe jamais. Et je sais que, par exemple, en Turquie, ils s'en servent aussi pour chauffer le café, le sable et tout. Et je sais que c'est possible de reproduire ces conditions ailleurs que dans le désert.
Donc, avis à tous les sahéliens qui nous écoutent, vous pouvez inviter Maurice Sacco pour lui faire découvrir donc ce savoir-faire qui est,
je veux.
Qui est tellement riche, tellement riche. Il y a évidemment des cuisines qui vous fascinent, peut-être du côté de l'Asie un peu.
Sur l'Asie du Sud-Est, par exemple, je trouve que c'est une cuisine qui est juste magnifique. Et une cuisine qui, au final, dans ses goûts, se rapproche de la cuisine africaine. Donc on a cette utilisation d'arachides avec des piments, pas mal d'épices, des sauces poissons fermentées qu'on retrouve pas mal, le poisson fermenté énormément utilisé en Guinée, au Sénégal. Et je trouve qu'il y a des marqueurs en fait qui sont communs, mais au final les deux cuisines sont totalement différentes quoi. Donc comment on part avec des marqueurs gustatifs qui pourraient être proches et se retrouver sur deux cuisines qui sont diamétralement opposées. Donc déjà, ça pique ma curiosité. Et ensuite, c'est juste excellent.
Et puis l'Afrique de l'Est aussi, très riche.
Et l'Afrique de l'Est, donc surtout ce qui est la corne de l'Afrique, c'est une cuisine que moi, je trouve fantastique, que je ne connais absolument pas. Donc, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On ne peut pas dire je cuisine l'Afrique et je connais toute l'Afrique parce que je pense qu'il y a beaucoup
de choses. Mais vous n'avez pas la prétention de dire que vous cuisinez l'Afrique.
C'est ça. J'ai pas cette prétention. J'ai justement, dans un sens où je dis, j'apprends en même temps que mes clients et je découvre l'Afrique en même temps que tout le monde. Donc, la corne de l'Afrique, c'est vraiment une cuisine que moi, je trouve exceptionnelle de ce que je connais et de ce que j'apprends à connaître parce que c'est une cuisine, par sa position géographique déjà, on est à un carrefour du monde un peu. Donc on remonte des Indes, c'est la route des épices, et on a vraiment cette utilisation d'épices et on est entre une cuisine donc au final asiatique, indienne, africaine, et on a un peu de cuisine du Moyen-Orient qui vient s'y mélanger donc... Que des bonnes choses au final.
un peu de paradis quoi.
Et on a une utilisation des légumineuses et du légume dans sa globalité qui est beaucoup plus poussée car la viande coûte encore plus cher dans ce coin-là du monde. Donc c'est limite un régime végétarien et des fois qui est totalement végétarien. Et donc il y a vraiment une recherche du goût et des épices et qui est très poussée parce que quand on cuisine un légume c'est forcément plus compliqué à rendre bon et à le manger au quotidien. Si
oh, mais qu'est-ce que vous nous racontez là?
Oui, mais moi, si on me fait manger les carottes râpées tous les jours, je vais m'ennuyer. Alors que si un jour on met du curry, si un autre jour on met du cumin, un autre jour on met de la nigelle, ces carottes râpées seront peut-être meilleures.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Je t'aime, mi amore, meni befie. And it is la bilila too much. Na mo ko fie nero sila don kilile la ila kola ah ilene la muluku moso ni na mo ko fie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona de ilele le fe je t'aime mi amore meni.
Não também viver sem medo e confiança. Não era mais guizão. Olhar de nós criança tá torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria nós amor tá bem descansado. De celuta e resistência
per sopravvivere nelle tormenta. Da brandori calmaria, non già morta ben scansata. Di salute e resistenza, per sopravvivere nelle tormenta.
Certi amore
it must.
Vous aurez reconnu bien sûr Salif Keïta, Césaria Évora, Yamoré sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec le chef cuisinier Maurice Sacco, jeune chef cuisinier du restaurant Mosquée à Paris. Histoire d'amour, c'est bien ce qu'on vient d'entendre là. Je t'aime, je t'aime. Et c'est vous qui l'avez choisi cette chanson,
ouais.
Maurice Sacco. Alors pourquoi ? À qui voulez-vous dire je t'aime ?
Bah, à maman tout simplement, parce que c'est une des chansons préférées de ma mère. Et c'est une petite dédicace et c'est une chanson que moi j'adore parce que bon bah. C'est une super musique déjà, et ensuite c'est une chanson d'amour, et moi je prône l'amour avant tout.
Les ondes amoureuses dans ce studio, en tout cas les ondes d'amour pour la maman de Maury. On a parlé du Japon un petit peu, mais alors ce qui est incroyable chez vous, c'est quand on dit inspiration japonaise, c'est très sérieux, quand on découvre que votre inspiration japonaise vient directement de ceci.
Tenez, goûtez.
Alors, ce serait donc ça le plat le plus exquis de la terre. Oh, quel plaisir intense! Mon soif glisse tout seul, c'est aussi doux que de la soie. La texture est très agréable en bouche et le bouillon est un ravissement de tous les instants. En un mot, c'est parfait et il suffit simplement d'y verser de l'eau chaude.
Oh, je sens que je vais me régaler. Merci pour ce repas. Oh, quel délice! Oh, ça fait du bien par où ça passe. Très bien.
On est où, là, Maurice Sacco?
Voilà, on est dans Dragon Ball.
Dragon Ball.
On y est totalement.
J'ai dit inspiration japonaise puisée dans Dragon Ball. Racontez-nous un petit peu, quand même, parce que c'est pas courant.
Alors, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir? Mais justement, là, avec les extraits, ça devient beaucoup plus évident. Ils passent leur temps à manger dans les mangas. Donc, moi, tout petit, j'adorais ça et je regardais tout le temps les mangas, en fait, hein, qui est essentiellement ça à la télé. Et donc, en grandissant, à force de les voir manger comme ça des festins avec des plats scientifiquement japonais, donc c'était des nouilles instantanées, des ramen instantanés et des sushis et toutes sortes de choses, j'ai eu envie de les goûter, et au final j'ai aimé ce que j'ai goûté tout simplement, et de là j'ai goûté plus de choses de plus en plus pointues, parce qu'au début c'était pas très pointu, hein, c'était le japonais du coin, je mangeais 3 sushis qui étaient pas top, mais j'étais content, je mangeais comme dans les mangas, et ainsi de suite, j'ai appris à découvrir des choses de plus en plus pointues, et ce goût du Japon, j'ai appris à l'aimer. Et puis maintenant, j'arrive pas à m'en passer, en tout cas, que ça soit dans mon travail ou dans ma vie privée.
D'accord. Mais c'est quoi ce goût du Japon, selon vous ?
Selon moi, mon goût du Japon, en tout cas, moi, ce qui se dégage, c'est déjà une finesse dans la cuisine et une intelligence du cuisinier. Quand on parle d'intelligence du cuisinier, je demande pas à un cuisinier qui a Bac+8, mais que chaque chose qui est dans ce plat n'y est pas par hasard. On ne met pas du sel pour mettre du sel, on met pas du cerfeuil par-dessus parce que ça c'est joli, non. Quand un élément est dans un plat, il est là pour une raison gustative ou pour assaisonner, et il y a toujours une réflexion dans la manière de manger. Et puis moi, j'adore penser la cuisine, donc je trouve que c'est des gens qui le font dans tous les niveaux, on va dire, que ça soit un vendeur de boulettes dans la rue, il fait attention à sa sauce, à la manière dont il laque sa boulette, ou plus grand chef sushi. Donc c'est vraiment par ça que je définirai la cuisine du Japon, donc une subtilité et une intelligence dans la réalisation des recettes.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a reçu dans Le Goût du Monde Shihiro Mazui, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art japonais du poisson ». Et justement, elle explique cette unicité et cette épure dans le goût japonais. Je vous propose de l'écouter.
Au départ, il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu grand-chose à manger au Japon. Par la nature géographique du lieu, nous avons été plus ou moins obligés à épurer, parce que nous n'avions pas vraiment le choix. En France, vous avez une cuisine qui est très riche, avec beaucoup de couches successives de choses. On fait des sauces avec 10 ingrédients qu'on va encore mettre sur une viande, etc., etc. Nous, au Japon, on n'avait pas les produits pour pouvoir faire ça. Et je pense que l'épure japonais, qui est très appréciée aujourd'hui, vient de là. Le goût du Japon, pour moi, c'est ça. C'est un goût qui est unique, unique dans le sens un. Il y a un goût, il n'y en a pas cinq ou dix ou quinze dans une assiette. Un goût qui vient de la mer ou qui vient du riz.
Et c'est Shihiro Mazui, donc, qui est journaliste gastronomique, et le dit, donc vous partagez le même avis.
On ne s'est pas consulté, très honoré d'avoir le même avis qu'elle sur le Japon, parce qu'au niveau connaissance, je pense qu'il y a moins de monde entre nous.
Et c'est votre curiosité, surtout qui vous rapproche de la connaissance et votre observation de la cuisine japonaise, qui fait que du coup, vous pouvez miser, jouer avec cette saveur unique, cette texture, ce goût, cette température que vous choisissez dans votre restaurant et dans votre cuisine.
J'ai pour habitude de dire que la première qualité que je pourrais avoir au-delà de la créativité que je peux avoir dans ma cuisine, c'est vraiment la curiosité. Parce que pour moi, c'est de là où tout naît au final. C'est que quand, par exemple, avec ce sel, par exemple, quand on me parle d'un sel qui est délicieux, je le dis tout de suite, ah, ce sel, comment il est composé? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment on peut l'utiliser? Et c'est en multipliant toutes ces questions que j'arrive vraiment à aller au fond à chaque fois d'une découverte, quoi. Donc, la première fois que j'ai bu une soupe miso, dit « Ah, c'est bon ». Ensuite, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que le miso? Comment c'est composé? Comment c'est fait ?»
Et une fois comment que j'ai su comment...
C'est ça. Et une fois que j'ai su comment on en faisait, je me suis dit « Comment on le fait ?» Mais vraiment très bien. Une fois que j'ai appris à faire vraiment très bien, je me suis dit « Comment je le ferai ?» Et c'est vraiment cette curiosité qui est un peu à la base de tout pour moi et qui nourrit en tout cas ma créativité derrière.
Sous-jacent dans tous vos mots, il y a cette notion de perfection.
Ouais, quand même. Il y a une notion de perfection. Après, la perfection, c'est le problème, c'est qu'on a chacun sa propre définition de ces mots-là. Donc moi, je recherche la perfection, mais c'est un peu un égoïsme aussi du cuisinier, c'est que je cherche la perfection, mais selon mon goût. Donc une fois que je considère que c'est bien, là, je le propose et je suis à la recherche de ma perfection. En tout cas, quelque chose qui m'est très personnel, mais... Ouais, il y a cette notion qui revient assez souvent au final.
Dans votre restaurant chez Mosuke, est-ce qu'il y a un plat justement qui serait une bonne illustration de votre interprétation d'un goût japonais?
En fait, qui serait la bonne interprétation, c'est nous par exemple, la première chose qui arrive sur table, c'est un œuf parfait qui est avec un bouillon dashi et du tsukemono. Donc en fait, je suis parti d'une histoire, ouais, c'est ça, c'est très japonais. Et en fait, je suis parti d'une histoire de la culture un peu populaire japonaise qui est le onsen tamago. Donc on disait qu'au Japon les gens quand ils allaient se baigner dans les douches, dans les bains chauds, donc les onsen, prenaient toujours un œuf avec eux et le mettaient dans le bain. Et en fait, la température et le temps de cuisson de l'œuf parfait donc qui est de 64 degrés pendant 45 minutes se rapproche à peu près de la température des onsen. Et le temps d'un bain qui est à peu près 3/4 d'heure. Donc au final, on s'est dit qu'en fait, l'œuf parfait, en fait, était juste la version évoluée de cet onsen tamago. Et en recherchant, j'ai découvert qu'il mangeait juste avec un trait de sauce soja ou un bouillon dashi. Donc on est parti de ça. Et puis pour ramener un peu de peps, j'ai pris les tsukemono qui sont les pickles japonais classiques. Donc c'est un plat qui, quand les clients le mangent, ceux qui connaissent le Japon, qui ont voyagé au Japon, se disent, là, je retrouve vraiment le goût du Japon. Et ce plat est vraiment un peu l'hommage au Japon que je puisse faire au restaurant. Quoi.
Et il n'y a pas d'Afrique dans ce plat-là?
La seule Afrique qui vient, justement, vient par l'épice. Et c'est par-dessus, on rave un peu de poivre de sélim.
D'accord.
Juste pour apporter un peu de
caractère. C'est la seule invitation.
C'est ça, c'est la seule invitation dans ce plat, parce qu'on a une logique dans le restaurant, c'est qu'on ne mélange pas obligatoirement tout. Donc fois, on s'amuse à se dire que là... Ce plat est justement un hommage au Japon et on vient juste rajouter cette épice qui vient d'Afrique pour apporter un peu de caractère. Et autrement, sur des plats tels que le mafé ou l'yassa qu'on fait sur les plats chauds, parce que sur les plats chauds et sur les viandes, j'ai vraiment envie que là, on soit en Afrique, le Japon est présent pour, par exemple, on remplace un citron par un yuzu, mais la recette est une recette africaine classique.
Et en même temps, on n'est pas juste dans substituer un condiment par un autre.
C'est ça.
Vous êtes... tel qu'on l'imagine, nous, qui ne goûtons pas votre cuisine là tout de suite, on peut imaginer qu'il y a comme un complément pour restituer et créer un plat, du coup.
C'est ça, c'est qu'il y a vraiment... On n'est jamais dans quelque chose de gratuit. Donc je reprends un peu ce que je disais de la cuisine japonaise. Je ne vais pas mettre un aliment pour le mettre. Donc quand dans mon yassa, je remplace les citrons par les yuzu, c'est qu'il y a un vrai apport gustatif et une vraie aromatique, qui est une complexité qui est différente de celle d'un simple citron jaune et que ça va apporter ce yassa encore plus haut qu'il ne peut l'être. Et il y a vraiment pour moi une réflexion poussée et on n'est pas sur quelque chose de démonstratif. Je fais pas pour faire, je fais juste parce que je considère qu'il y a une vraie valeur ajoutée.
Et c'est rigolo parce que vous avez utilisé le terme mélange, mais en fait mélange, ça vous va pas très bien comme terme.
Non, au final mélange, c'est pas forcément le terme, mais bon, se contredit soi-même. Mais non, mais mélange au final, ouais, c'est. Mais après le terme, je pourrais.
La naissance de deux entités qui créent quelque chose de nouveau.
C'est ça, c'est que c'est ouais, c'est vraiment, bah c'est ce qu'on met dans la carte, c'est que au final, le client, on le prévient que ce qu'il va déguster ne sera ni une cuisine africaine. Parce qu'il y a des plats qui ne sont pas africains, ni japonaises, ni françaises, mais quelque chose de totalement nouveau. Et pour moi, ça me semblait important de le mettre pour le client, pour qu'il comprenne tout de suite la démarche du restaurant et qu'il se dise pas, je vais manger une cuisine africano,
japonisto, franco.
Non, c'est vraiment autre chose et vous allez voyager entre ces différents territoires au fur et à mesure du repas, quoi.
C'est une autre cuisine, quoi. En fait,
c'est ça.
Hein, c'est ça normalement. Alors, vous parlez de la France. Elle est où?
La France, elle est où? Bah, elle est partout et elle est nulle part au final. Parce que, moi, l'endroit où j'ai vraiment appris mes bases de cuisinier et ma manière de cuisiner, c'est en France et c'est la cuisine française. Donc moi, j'ai appris à cuisiner parce qu'à la maison, je cuisinais jamais. Donc j'ai appris à cuisiner à l'école hôtelière. Donc j'ai appris à cuisiner d'abord en faisant des bœufs bourguignons, en faisant des blanquettes, en apprenant à ficeler une volaille, mais selon ce qu'on fait en France. Et toutes ces bases, toutes ces techniques, toutes ces découpes, tous ces modes de cuisson, en fait, c'est un peu ma caisse à outils est française, quoi.
Oui, c'est le geste, en fait, les gammes.
C'est ça. Tous les gestes, toutes les gammes, toute la manière de faire un jus, de faire un bouillon, de faire des sauces qui sont vraiment la base un peu de la cuisine française, sont des méthodes de la cuisine française. Donc au final, quand je cuis un bœuf, c'est pas un bœuf bien cuit comme on peut le retrouver en Afrique quand ma mère fait à manger, c'est bien cuit, il n'y a pas d'autre cuisson pour le bœuf. Hein. Voilà, s'il y a du sang dedans, c'est pas bon. Et non, c'est justement, en ce cas, sur des modes de cuisson, moi, forcément, je vais pas au-delà d'un point. Et c'est vraiment là où la France est présente au final dans toutes ces techniques. Et en fait, si la forme ne ressemble pas à la France, en tout cas, il y a une bonne base du fond qui, elle, l'est.
Ouais, c'est ça. La boîte à outils, c'est très bien trouvé comme expression. On voit très bien. Hein. Je sors un fond, je sors ce dont j'ai besoin pour créer.
C'est ça, pour créer un goût d'ailleurs. Mais en fait, au final, les outils que j'utilise.
Votre goût à vous, quoi.
Voilà.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Pas jusqu'à la moitié, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel?
Solo de Luz and the Yakuza sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Maurice Sacco. L'Afrique coule dans ses veines. Le regard japonais, le geste français. Voilà. Totalement métisse, on peut dire. Maurice Sacco. Cuisine métissée, des empreintes et des saveurs qui se mêlent. N'en avez-vous pas un petit peu marre, Maurice Sacco? Qu'on vous parle tout le temps justement de ses inspirations, de ses influences. Et quand on vient d'entendre la chanson de Luz et les Yakuza, on se demande, être un cuisinier noir aujourd'hui, dont on attend une cuisine africaine, comment vous vivez ça? Et est-ce que c'est une lutte pour vous?
Bah moi je considère que c'est pas une lutte, mais forcément qu'on parle justement de ses influences, de ses inspirations. Bah, moi je dis juste merci pour une fois qu'on a un intérêt pour cette cuisine africaine et qu'on vient me solliciter pour en parler. Je vais pas m'en plaindre. Moi justement qui dit que cette cuisine manque d'exposition, et entre autres après moi je m'amuse à la mélanger avec d'autres, et c'est un double combat au final, c'est de dire oui la cuisine africaine existe, mais oui il y a des afro-descendants donc qui ont une identité qui elle est multiple au final, et c'est un peu, après on revient sur toute la recherche d'identité de justement de ces enfants un peu afro-descendants qui sont et français et qui conservent leurs origines. Et comment ça s'exprime? Et moi, dans ma cuisine, c'est comme ça que ça s'exprime, parce qu'au final, j'ai forcément, bah, dans mon sang, dans mes veines et dans mes origines et la totalité de ma personne, en tout cas, j'ai le Mali, le Sénégal qui résonne. Mais au final, je suis un Français et j'ai mes passions comme le Japon qui me sont propres. Donc, est-ce que le fait d'être d'origine africaine me force à me cantonner justement sur cette Afrique, ou est-ce que je me ressente sur ma personne et j'accepte le fait que je suis juste un Français d'origine africaine, passionné par le Japon, et que du coup je suis ces trois choses en même temps, quoi. Donc oui, je suis très content qu'on me parle justement de ces inspirations, et plus particulièrement de l'inspiration africaine, et non, ça m'embête pas justement de parler d'un côté multiculturel, puisque c'est ce que je prône au final par ma cuisine et par rien que par le fait d'être, tout simplement.
C'est que je me disais que parfois peut-être on en a marre, en fait on a juste envie de dire bah écoutez, prenez-moi comme je suis, c'est-à-dire que voilà, moi je fais une cuisine, intéressez-vous à la cuisine que je fais.
C'est ça.
Et ce qu'il y a dans votre assiette, est-ce que, comment vous la recevez-vous?
Il y a un problème, c'est que on est obligé de, entre guillemets, mettre une étiquette, ou en tout cas de pouvoir identifier une personne, une chose ou autre, et d'avoir une manière de le définir pour ensuite ouvrir la conversation. Donc moi, je me prête au jeu pour l'instant, justement, à me dire oui, je vais parler de mes origines, oui, je vais parler un peu de ses inspirations, mais je sais que ça va durer 5 minutes dans la discussion, et ensuite, on va approfondir. Et là, à partir du moment où on va commencer à approfondir cette discussion, bah là, c'est comme un oignon, on va venir peler toutes les couches, et à chaque couche, bah ça sera un sujet différent et un œil différent. Donc, au final, c'est juste une question de patience, c'est une question de prendre le temps de faire les choses, mais prendre le temps, on me l'a appris depuis tout petit, donc il n'y a pas de problème.
Très bien, calme, tranquille.
Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé, j'ai que 28 ans, j'ai le temps de parler plein d'autres choses.
Et cette année 2020 quand même, parce que là, je dois avouer aux auditeurs qui nous écoutent qu'il y a beaucoup de monde en régie, et pour une bonne raison, c'est parce que on vous aime, on vous a suivi à la télévision, parce que dans votre vie cette année, en tout cas, il y a eu ça.
Bon, c'est bien. Ils m'ont parlé de la chair de la vive, de la peau, de la queue et des arêtes, mais elle est où la tête? Est-ce qu'on a utilisé le poisson de la tête à la queue?
C'est un message.
À vous de réfléchir, Marco.
Oui, chef.
Ouais.
Là, gros doute. Moment de panique, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça? On se pose et on réfléchit sur la recette. Et là, je vois les yeux.
Les yeux, faut qu'on les goûte.
Vas-y. Les yeux? Bon, ben, l'audace a des limites, les garçons.
C'est iodé, hein. Je mâche.
La texture est hyper chelou. Ça croque, mais en même temps, il y a du jus.
L'idée des yeux, qu'est-ce que tu en penses?
Je trouve que ça reste un peu en bouche.
Et quand quelque chose n'amène rien, on recentre, on élimine. Et on compense. Et on compense.
Il est pas rancunier, Maurice Sacco, parce qu'il est présentement mort de rire dans le studio, parce que c'est un très bon souvenir. Donc, on replace, c'est une épreuve de Top Chef, le concours culinaire. Vous êtes avec Marco,
ouais,
en train de cuisiner un poisson, et là, vous avez cette idée lumineuse qui est donc de cuisiner les yeux.
C'est encore la curiosité qui s'exprime, mais dans le mauvais sens. Donc, là, on s'est dit, faut qu'on goûte les yeux. Et on a goûté les yeux.
Et c'était pas concluant.
Pas bon du tout. Donc, je pourrais dire que la prochaine fois que j'ai envie de cuisiner des yeux, je sais que c'était pas bon.
C'est pas une bonne idée.
Non, clairement pas, non.
En tout cas, Top Chef dans votre vie, c'était quoi et ça produit quoi?
Alors, Top Chef dans ma vie, déjà, bah, pour le définir, c'est que c'est un accélérateur formidable. Un accélérateur d'exposition, déjà, d'un point de vue médiatique. Un accélérateur de talent, parce qu'on progresse énormément dans cette émission. Et surtout, un accélérateur, comment dire, dans mes projets personnels.
Oui, parce que ce restaurant, il a germé avant Top Chef.
C'est ça, ce restaurant a germé avant. Et pendant Top Chef, j'étais en plein dans les démarches administratives pour lancer le restaurant. Et en fait, le fait d'avoir fait Top Chef, forcément, ça facilite l'obtention d'un prêt pour un restaurant. Et moi, ça m'a accéléré le projet parce que là où j'aurais dû batailler avec les banques pendant 3-4 mois pour avoir mon prêt, bah, ça a pu être réglé en moins d'un mois.
Ouais, oui, c'est ça. Ça ouvre des portes qui...
Ça ouvre des portes qui sont assez folles. Et puis après, professionnellement aussi, on évolue énormément parce qu'avoir sa cuisine qui est dégustée par autant de grands chefs en si peu de temps, c'est unique en fait. On n'a jamais cette occasion dans une carrière de cuisinier. Donc on se rend compte qu'au fur et à mesure des avis, là où on doit travailler sur notre cuisine, aussi là où les chefs observent comment ils lisent, comment ils analysent une assiette, comment ils lisent un plat. Et tout ça, c'est juste des choses à apprendre et le maximum possible. Quoi.
C'est un apprentissage dingue en très très peu de temps.
C'est
quoi.
Ça, c'est très concentré. Donc sur le moment, on a du mal un peu à s'en rendre compte. Mais dès que ça finit, avec le recul, on se dit non, c'est juste formidable et c'était génial, quoi.
Ce qui est incroyable aussi, c'est que donc Top Chef se termine, en tout cas sa diffusion.
Ouais.
Et quelques mois plus tard, vous ouvrez Mosuke. Et là, ouverture, dis donc chaotique, parce que ouverture facile et tout à coup, pam, couvre-feu, puis confinement. Comment on gère ça? Comment est-ce qu'on réinvente du coup une cuisine? Comment vous avez réagi et comment vous avez fait?
Alors, c'est le genre de situation où il faut rester positif. Il faut être très très positif.
Je ferme les yeux, je ne panique pas, j'avance.
C'est un peu ça au final. Hein. C'est vraiment une ouverture qui démarre, mais sur chapeau de roue, tout est super.
Oui, c'est ça, les carnets pleins jusqu'à novembre, c'était vraiment...
Une ouverture assez folle, quoi. Et après, en ouvrant, il y avait toujours c'est un peu ce spectre Covid qui flottait dans l'air, donc on savait que ça pouvait tomber à tout moment. Honnêtement, moi, j'ai pris mes petits paris tout seul et j'avais plutôt planché sur un janvier-février pour des fermetures. Ça arrivait dès le mois de novembre. Octobre-novembre, on a commencé à avoir les premiers. Et puis donc là, on s'est dit, bon, on est dans une dynamique d'ouverture, les équipes sont encore fraîches, on est motivés. Moi, j'avais encore envie de continuer. Donc on va juste se réinventer et du coup, on est passé sur une offre à emporter comme beaucoup. Mais on essaye
Mosugo.
De continuer à s'amuser. Mosuke et Togo, du coup. Ça.
Mosugo. Mosugo, très simple.
Voilà.
C'est une formule, en plus, qui est intéressée, je crois, par tout ce qui est street food, cuisine de rue. Il faut que ça puisse plaire un peu à tous les palaces. Du coup, c'est amusant, paradoxalement.
Paradoxalement, oui, c'est amusant. Et ça me permet, moi, de m'ouvrir à ce deuxième point de la cuisine que moi, j'adore, qui est la street food, qu'on oppose souvent à la gastronomie, alors que les deux tracent leur chemin chacun de leur côté, mais il n'y a pas de distance entre les deux. On peut faire l'un et l'autre. Et ça me permet justement de m'amuser. Donc nous, on fait des poulets frits. On s'amuse à travailler poulets frits avec une belle volaille. Et c'est une chapelure qui est un peu insolite pour un poulet frit. Et travailler vraiment et de pousser ce poulet frit au maximum de ce qu'on peut faire, tout en restant sur quelque chose d'assez ludique. Donc un bout de poulet frit avec des sauces à côté, quoi.
On est dans le chirashi, je crois, cette semaine.
Ouais, cette semaine, on était dans le chirashi. Donc pareil, c'était ma vision du chirashi. Donc sushi éclaté, très japonais, mais avec des condiments qui me sont propres. Et vraiment, on s'amuse et on change toutes les semaines. Donc moi, ça me permet de ne pas m'ennuyer, de ne pas m'endormir. Et en même temps, ça permet pour la clientèle de renouveler l'offre aussi au fur et à mesure.
Et réfléchir peut-être du coup à un autre établissement.
Ouais, ça
soyons
permet...
Fous,
nous, moi, j'avais déjà cette réflexion d'ouvrir un autre établissement. Justement, la cuisine serait plus accessible d'un point de vue financier et d'un point de vue construction du plat aussi. Et ça me permet aussi de tester certaines recettes aussi que je pourrais mettre dans ce futur restaurant.
D'accord. On est là, on regarde un peu le ciel là et on se dit « Ah, dans le ciel, il y a des étoiles ». C'est dans vos projets également ?
Ouais, l'étoile fait partie des projets. Plus que dans le ciel, moi je la veux placardée sur l'entrée du restaurant. Donc, avec l'équipe, on bosse dans cette direction. Et j'en fais pas une obsession, c'est en tout cas c'est un objectif, mais on bosse dans ce sens-là et j'espère que ça viendra le plus tôt possible.
D'accord, étoile du guide Michelin, bien sûr, une des deux, alors que le Goemio, qui est l'autre guide français, vous a reconnu jeune talent
ouais,
2020.
Oui, Goemio, on a un très bon rapport, super.
Donc on est bien, quoi.
Ouais, on était bien lancé. Ouais. On espère que à la réouverture, moi je profite aussi de cette phase de fermeture pour travailler sur des nouveaux plats, travailler sur de nouvelles associations aussi, pour revenir plus fort qu'on l'était à la fermeture et faire en sorte de mettre à profit cette période, quoi.
Vous avez un totem, un animal totem, lequel est-il?
Ouais, l'animal totem donc que j'ai, qui représente aussi le restaurant, c'est le héron. Donc moi j'ai choisi comme animal totem parce que c'est un animal qui est présent sur les trois territoires, donc on le retrouve aussi bien en Afrique qu'en France qu'au Japon, et à chaque fois il a une représentation, que ça soit en peinture ou dans les arts ou que ça soit dans la culturelle, qui est assez forte. Et donc pour moi il représentait assez bien ce voyage qu'on avait entre ces divers territoires, et bien que bon je pense pas que ce soit les mêmes populations d'hérons qui habitent les trois, mais il y a cette idée de migration, de voyage, et vraiment de au final, de s'alimenter sur chacun de ces territoires. Donc le héron qui est en France et qui migre en Afrique, il va manger aussi bien en France qu'en Afrique. Mmh. Et c'est un peu ce que nos clients font. Ils voyagent entre la France, l'Afrique et le Japon, comme ce héron.
C'est une tradition dans le goût du monde. Je voudrais savoir un ingrédient et un ustensile que vous pourriez partager avec nous.
Alors, pour l'ustensile, moi, j'irais le mortier.
Le mortier,
ouais. Le mortier, parce que... c'est en même temps un ustensile qui est pas énormément utilisé dans les cuisines professionnelles, mais un ustensile qui est quasi essentiel dans la cuisine africaine. Moi, ma mère, j'ai vu piler son okos des heures et de multiples fois. Et moi, j'ai appris à l'utiliser vraiment parce que sur des épices, en fait, le fait de les casser au mortier ou le fait de les moudre avec quelque chose d'électrique change totalement le goût. En fait, le fait de la piler, ça conserve un grain qui est particulier, un goût, un parfum, et ça les éclate pas pareil. Donc le mortier, c'est quelque chose que j'utilise énormément aussi. On fait le sac à sac à la minute au restaurant, donc on a le mortier qui est juste à côté, et quand il faut, bah, on a les feuilles, et puis on les pile vraiment au moment. Donc,
feuilles de manioc.
Les feuilles de manioc, et les équipes sont bien actives, parce que ça demande de l'énergie pour le faire en très peu de temps. Et si un ingrédient, je prendrais peut-être le plus bizarre et le plus... qui est présent aussi bien au Japon qu'en Afrique, en tout cas de l'Est, le gombo, parce que c'est les deux peuples qui ont appris à aimer ce...
C'est
pas légume. Un légume, c'est un fruit légume,
c'est un fruit,
mais c'est
oui,
une
c'est
fleur
vrai.
Au final. C'est un peu tout en même temps. Donc il est aussi complexe à définir que sa texture. Et je trouve que c'est un aliment en tout cas qui a énormément à livrer et... qui est plein de surprises, donc ça représente assez bien la cuisine qu'on fait, et je pense que je peux m'amuser à travailler énormément avec ce gombo.
Avec ce gombo-là. Merci beaucoup, Maury.
Bah, merci.
Merci, Maury Sacco. Alors évidemment, vous êtes le chef de Mosuke, qui est dans le 14e arrondissement. L'adresse exacte, c'est 11 rue Raymond Losserand, avec des plats à emporter en ce moment, une carte chamboulée, évidemment, pour cause de confinement, on en a parlé. On vous notera sur la page web tous les détails, téléphone, site web, réseaux sociaux, pour retrouver Maury, évidemment. Dites-nous ce que Maury, San, son parcours, vous a inspiré. Sa détermination, ses goûts, sur la page du Goût du Monde, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66, qu'on puisse échanger, cogiter, déguster, partager toutes ces idées et ces plats, vos envies. La semaine prochaine, nous serons à toute vapeur, un attiéké des Bao et des recettes gastronomiques surprenantes. Et oui, on va bien voyager.
Attiéké Bao,
absolument.
Ça me parle.
Hein, ouais, ça vous parle, voilà.
Ça me parle.
Avec ce petit sel mauritanien, et on est bien.
Parfait, je viendrai.
On souhaite une belle semaine à vous tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. À samedi prochain.
Yasuke est mon nom, la route à travers les villes. J'ai vu bien trop de râteaux dans le port des condamnés et conduit par tous ces gens qui veulent nous dire où se carrer. Combien ont pris de risques, combien ont renoncé. Moi j'ai rêvé Yasuke, depuis ce jour-là je sais que tout est possible. Tout est possible, ouais. Ils refusent de voir que ce monde est bigarré. Et parce qu'ils sont aveugles, va falloir se bagarrer. Tout est possible, ouais. Tout est possible, ouais. Même si parfois on se sent comme égaré, y'a tant de raisons de croire que c'est rien de programmé. Tout est possible, ouais. Tout est possible, ouais. Tout est possible, malgré ce qu'ils disent. Tout est possible.
Avoir un idéal, foi en quelque chose. Pour tous ceux qui chutent sans jamais se coucher.
Musique du